Est-ce la bonne décision ? Quelque chose ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Avec Nathalie Janson, professeure à Neoma Business School, Olivier Babot, président de l'Institut Sapiens, professeur en sciences de gestion à l'Université de Bordeaux, auteur de La tyrannie du divertissement, Ne laissez pas les loisirs gâcher votre vie chez Buch et Chastel, Rafik Smati, chef d'entreprise dans le numérique, et vous avez publié Le Nouveau Temps, comment reprendre le contrôle à l'ère de l'intelligence artificielle, de l'IA, chez Erol. Vous vouliez réagir à ce qu'on disait juste avant, là, sur
l'inflation. Peut-être que une partie de l'inflation a été cachée par la déflation technologique, dont on sait qu'elle peut cacher une partie de l'inflation. Et la deuxième chose, c'est que ça a été montré depuis très longtemps par Cantillon, n'est-ce pas, Cantillon, qui a montré que l'effet Cantillon, c'est que l'inflation ne se a des canaux pour se disséminer. Et en l'occurrence, on l'a quand même assez bien vu dans le prix des actifs mobiliers et immobiliers depuis assez longtemps.
Ah ben l'immobilier,
donc là, elle était vraiment là, effectivement, mais elle ne se répartit pas de façon uniforme.
C'est exactement.
Du coup, elle crée d'ailleurs des effets de richesse d'un côté ou de pauvreté de l'autre qui sont problématiques socialement.
En tout cas, on voit que le resserrement des politiques monétaires a eu un effet absolument indiscutable sur la production de crédit immobilier. Quand on nous dit qu'on ne voit pas les effets des politiques monétaires, je pense que sur la production...
Il y a des secteurs où c'est une relation très stricte. Quoi.
Très rapide, finalement. Ah, oui. Ça a été assez rapide. On a vu se resserrer la production de crédit immobilier à toute allure. Ça tombe pas très bien parce que ça tombe au moment où le choc d'offres sur la construction intervient lui aussi. Ce qui nous met dans une situation globale sur le logement qui est assez inédite. Bien. Comment vous recevez les propos de Pierre Moscovici, Rafik Smati ? La croissance est improbable telle qu'elle est prévue par le gouvernement. Il a d'ailleurs la même lecture sur la trajectoire de réduction du déficit. La situation est sérieuse, elle est préoccupante pour les finances publiques. Pourquoi pas un impôt exceptionnel, temporaire ? Lui qui avait pourtant inventé le ras-le-bol fiscal en 2013, il considère que la question fiscale n'est pas taboue. Pierre Moscovici nous dit l'explosion de la dette va paralyser l'action publique. Didier Migaud disait avant lui, la dette est un poison lent. Philippe Séguin disait avant lui, gare à l'explosion de la dette. Bon, ben voilà. Ben, le suivant dira la même chose, non ?
C'est une réalité. Moi, ça fait des années, comme beaucoup, je m'inquiète de la situation qui est en train de se profiler. Il y a quelque chose que je regrette amèrement. Vous savez, c'était Kennedy qui disait qu'il fallait réparer le toit quand il faisait beau. Et
on l'a attribué à plein de gens, cette phrase.
On a eu une période où, entre les années 2014, 2019, on a eu un concours de circonstances qui fait qu'on aurait dû réformer à ce moment-là. Oui, et vrai. Malheureusement, on ne l'a pas fait. Moi, aujourd'hui, je crois qu'on est dans une situation où, précisément parce que l'opinion publique est à fleur de peau d'un côté, que notre économie est fragile, il faut éviter précisément d'employer des mots qui font peur à tout le monde et s'intéresser au cœur du problème de manière pratique, concrète. Moi, ce que je vois, parce qu'effectivement, il y a un état de nos finances publiques qui est absolument lamentable, qui est même gravissime, et qui, avec ce mur de la dette qui est face à nous, moi, je vois trois leviers extrêmement pratiques sur lesquels nous devons agir. Le premier, c'est et qui n'ont pas de conséquences sociales et qui n'ont
pas comme conséquences sociales
et qui n'ont pas comme conséquence d'augmenter les impôts parce qu'on ne peut pas se permettre aujourd'hui d'augmenter les impôts.
Ah, vous m'intéressez. Pas d'effet sur la population et pas d'effet sur les impôts.
Mais vous allez voir, d'abord rechercher la performance publique. Prenons un exemple qui parlera à tout le monde. On a en France, dans les hôpitaux français par rapport aux hôpitaux allemands, 10 points de plus de personnel administratif. Vous avez 400 000 personnes en France, fonctionnaires qui travaillent dans des emplois administratifs dans les hôpitaux, c'est 50% de plus qu'en Allemagne, où, comme on le sait, on n'est pas spécialement mal soigné, avec une population qui, par-dessus le marché, est plus âgée que la nôtre. Donc, aller chercher la performance partout, être plus efficace. Et ça passe notamment par la numérisation.
Oui, l'intelligence artificielle aiderait beaucoup.
Et l'intelligence artificielle, ça sera beaucoup. Deuxièmement, aller chercher les gâchis. Et il y en a. Le ministre de l'économie, récemment, a évoqué la question des transports médicalisés. C'est un vrai sujet.
Quand 5,7 milliards par an.
Quand on s'est pris 2,5 milliards dans la vue en 15 ans, Il y a un sujet, c'est-à-dire qu'on a fait 40% de plus sur les transports médicalisés hors SAMU. On pourrait parler des indemnités journalières, c'est-à-dire des arrêts maladie, où on est passé, enfin, on a pris quasiment 5 milliards, 6 milliards dans la vue en l'espace de 15 ans, avec un bien-être au travail qui s'est, toute proportion gardée, relativement amélioré. Donc, il y a un sujet. Donc, un, performance publique. Deux, chasser les abus.
Dégage.
Et troisièmement, faire en sorte que la machine économique tourne et tourne mieux. Et là, on en arrive à la question du fameux taux d'emploi. Le taux d'emploi en France, qui s'est redressé, hein, qui n'a jamais été aussi élevé depuis 1975, il est quand même en deçà de 10 points par rapport à ce qu'il est en Allemagne et aux Pays-Bas. Mmh. Un taux d'emploi en France, c'est-à-dire que si on remet la France davantage au travail, qui serait du niveau de celui de nos voisins, eh bien, ça serait 12 points de PIB en plus et 100 milliards de recettes fiscales en plus. Et ça réglerait une partie de l'équation. Alors, ce n'est pas l'un ou l'autre. C'est les trois en même temps. Et les trois en même temps, eh ben, c'est pas d'augmentation d'impôts et c'est pas de casse sociale qui fragiliserait les plus faibles, parce qu'aujourd'hui, notre pays, de ce point de vue-là, est à fleur de peau. Et donc voilà, c'est très pratique, c'est simple, mais ça nécessite, parce que c'est pas des petits sujets, c'est des gros sujets, ça nécessite d'avoir du courage politique et une légitimité politique pour le faire.
Efficacité, gâchis, taux d'emploi, à votre avis, pour changer la donne, 2 ans, 3, 5, 6, 7, 10.
C'est la durée d'un mandat présidentiel. Mais j'ai envie de vous dire, quelque part, ça a déjà commencé, parce que le taux d'emploi, il s'améliore, sauf qu'il faut aller plus loin. La performance publique, elle s'améliore, mais il faut aller plus loin. C'est-à-dire que sur les trois points dont je vous ai parlé, il y a des choses qui bougent. C'est pas comme si rien n'était fait. Mais évidemment, on n'est pas au niveau des dangers qui sont devant nous aujourd'hui.
Donc ça veut dire que tout ce qui nous est annoncé depuis 15 jours, 10 milliards 2024, 20 milliards 2025 par petit, en allant racler à droite à gauche, c'est pas du tout la perspective qui est la vôtre.
Bah évidemment, il faut économiser là où on peut économiser. Si on fait des achats induits, évidemment qu'il faut aller les chercher. Mais à un moment donné, il faut voir les grandes masses. Et les grandes masses aujourd'hui de la dépense publique, c'est le poste social. Et le poste social, sans casser les acquis sociaux de notre pays, j'insiste, si on va chercher la performance d'une part et si on va chasser les gâchis d'autre part, on est capable d'aller chercher les 30 milliards. On est capable.
Vous n'avez pas attaqué les retraités, ce qui est souvent un peu un élément qui est mis avec les autres compte tenu du poids des retraites dans la dépense publique. Comment vous recevez, Olivier Babeau, les mises en garde de Pierre Moscovici? C'est une habitude. Mais alors on se dit qu'un jour ou l'autre, ceux qui nous disent que le mur de la dette arrive et qu'on va se le prendre en pleine figure, et peut-être un jour ils auront raison.
Moi, je crois qu'il a raison. Je crois que la situation est extrêmement grave. Bientôt, le service de la dette devrait être le premier budget de l'État.
On n'est pas loin.
2027,
on est à 52 milliards cette année. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Aujourd'hui, c'est déjà quand même la moitié de toutes les recettes de l'impôt sur le revenu qui est absorbée uniquement par les intérêts de la dette.
Un peu plus.
C'est quand même tragique.
Je crois que l'IR, c'est même pas 100 milliards.
Un peu plus parce qu'en plus, on a une mauvaise année fiscale. Il suffit qu'on ait une mauvaise année maintenant pour que ça soit très dur, évidemment. Moi, je crois que la situation est donc extrêmement grave et qu'on est surtout, non seulement on n'a pas fait les choses au bon moment, mais surtout, on arrive à un moment où l'impasse est telle qu'elle nous empêche en partie de faire les excellentes solutions, Rafik, que tu, effectivement, auxquelles j'ai envie de souscrire, évidemment, dès demain. Malheureusement, aujourd'hui, on est à un moment où l'impasse est telle que c'est extrêmement difficile parce que même les mesures nécessaires pour arriver à s'en sortir, elles sont difficiles, car, en fait, on est obligé de parer au plus pressé.
Ah là,
par exemple, on va supprimer, en fait, les investissements, par exemple, dans la transition, par exemple, les baisses d'impôts qui nous permettent sur les impôts de production qui nous permettraient d'avoir un peu une compétitivité qui serait meilleure.
Elles sont pas remises en cause.
Sacrifiées. Elles sont repoussées.
Elles ont été étalées, mais pas remises en cause.
En fait, en réalité, pour payer le fonctionnement qu'on n'arrive pas à juguler, on est obligé de renoncer malheureusement aux investissements. Alors, la solution sur les impôts, alors exceptionnels et temporaires, ça me fait évidemment rire parce qu'un impôt exceptionnel et temporaire, malheureusement, on en connaît beaucoup qui devaient être exceptionnels et qui ont beaucoup duré. La CRDS, par exemple.
Alors, je rappelle, la CRDS voit le jour dans les années 90 pour financer l'amortissement de la dette sociale.
En tant que la CSG.
Voilà.
La CSG,
la dette sociale est toujours là.
Elle devait disparaître. En tout cas, la CSG est partie à 1% aujourd'hui. On sait où elle en est aujourd'hui. La CRDS, un impôt, on va toujours trouver à l'utiliser. Donc, aujourd'hui, la vraie difficulté, c'est que le bateau de dépenses de l'État est devenu fou, qu'on ne sait absolument pas comment l'arrêter, que ces solutions de modernisation seraient quand même des changements de structure très profonds qui nécessiteraient un courage politique. Et peut-être une forme de vision que malheureusement je crois on n'a pas aujourd'hui. Donc voilà, je suis très inquiet et en effet ce mur de la dette il pourrait tout à fait arriver un de ces jours.
Ouais. Ah, mais quand? Parce que c'est pas agréable un incident de crédit. Hein.
Sur Guillaume Macquet, vous voyez, c'est que...
Je me souviens de Pierre Moscovici, 2013, j'avais débattu avec lui sur Canal+, et à la sortie de l'enregistrement, je lui avais dit, on est d'accord, ce que vous regardez du matin au soir, c'est le taux pratiqué par l'agence France Trésor pour placer les obligations assimilables du Trésor. Il m'a dit, mais il n'y a que ça qui compte.
Bien sûr.
On était off, hein. Il n'y a que ça qui compte. Et effectivement, le jour où ce truc-là se dégrade, eh bien, c'est là que les problèmes portent. Vous voulez réagir?
Oui, ce qui est relativement inquiétant aujourd'hui, c'est que le sujet de la dépense publique et de la manière et du train de vie de l'État, ce n'est pas un sujet de débat public. Une grande partie de nos compatriotes considèrent que ce n'est pas un sujet parce que c'est un sujet qui est trop compliqué, qui est trop haut, qui est trop élevé. Puis surtout, on a pris l'habitude en France de sortir le carnet de chèques depuis maintenant plusieurs décennies et de manière assez facile.
Là, on recommence avec les fonctionnaires pour les Jeux Olympiques.
Et c'est ce qui fait que aujourd'hui, le problème, c'est que quand vous avez un exécutif qui prend position sur la question, il ne le prend pas pour donner des gages à ses citoyens, il prend position pour donner des gages aux agences de notation qui peuvent nous dégrader et avoir des conséquences sur les finances publiques. En fait, la question de la dépense publique dans notre pays n'est pas un sujet politique, c'est un sujet financier. Et c'est peut-être tout le problème.
Oui, c'est vrai. Mais je persiste à penser que Bruno Le Maire avait complètement raison quand il a présenté le budget 2024 en disant la question du désendettement n'intéresse personne.
Mais oui.
Je pense que ça intéresse personne.
C'est pas un sujet politique.
Le problème est toujours le même. On a sorti 150 milliards de notre chapeau, apparemment sans aucun problème. Comment tu peux expliquer maintenant qu'on est désespéré à l'idée de trouver 10 milliards ou 20 milliards?
On a changé l'échelle de valeur. Hein, le million. Aujourd'hui, pour un milliard, t'as plus rien.
Et t'as plus rien. Un milliard, c'est rien du tout.
Je me souviens de cette anecdote. C'était un de mes camarades des Échos qui m'avait dit que, passant un jour place Beauvau, on était, vous savez, en plein Covid ou post-Covid, il rencontre des conseillers de Gérald Darmanin. Un sujet à 900 millions, on allait plutôt cacher le ministre.
Ouais.
Voilà, c'est pas le sujet. Alors, quand on commençait à taper dans du gros milliard, là, on allait peut-être voir le responsable des lieux, mais 700 millions, oh, c'est bon. Allez, c'est un... petite réaction là-dessus, je sais pas, Nathalie Janson. Y a un tel aspect déjà vu, quoi. Vos prévisions sont trop optimistes, la situation n'est pas bonne, attention danger. Vous avez vu, je vous ai cité Didier Migaud, Philippe Séguin.
Ah oui, on peut reprendre, en fait, c'est intemporel. En fait.
À part que depuis Philippe Séguin, la dette, elle a triplé.
Voilà, mais c'est atemporel. Ça, ouais. On ne peut pas se tromper. Le sujet, effectivement, je pense qu'en France, je vois difficilement la France vraiment prendre ce sujet, un gouvernement prendre ce sujet à bras le corps.
Ah, mais si vous avez un warning du marché.
Exactement. Là, mais ouais. Pour le moment, effectivement, le warning n'est pas là. Et effectivement, quand on compare toutes les dynamiques de dette, voilà, je vais pas vous redire la question du Japon. Vous voyez bien que des dettes extrêmement élevées peuvent quand même exister, puisque effectivement la particularité de nos économies développées par rapport à peut-être il y a un siècle, c'est que nous avons des taux d'épargne, et donc tant qu'il y a du taux d'épargne, il y a de l'absorption de la dette. Donc en effet, c'est inquiétant parce que c'est une dépense publique qui en fait n'est pas suffisamment décidée et orientée, parce qu'aujourd'hui il y a des urgences qu'il faut adresser, mais comme il y a une épargne qui est là, elle va absorber la dette. Et le Japon est une caricature dans ce style, puisque c'est un pays où en fait la dette est achetée en permanence.
Par
les Japonais eux-mêmes.
C'est ce qui fait que c'est si solide.
Donc on se demande effectivement jusqu'où on peut aller. On peut aller très loin si l'épargne mondiale ou nationale on peut avoir toutes les combinaisons possibles, est prête à acheter la dette française.
Oui.
Par contre, ça pose la question du rôle du gouvernement qui n'est jamais adressé, et comme il en a été débattu, je pense que par exemple l'éducation qui moi me tient à cœur, je suis désespérée de voir que ce sujet n'est pas adressé suffisamment. Voilà.
Mais on a objectivement aujourd'hui les finances publiques les plus dégradées de la zone euro. C'est vraiment la réalité. Alors je ne sais pas s'il peut y avoir un effet ou pas avec les agences de notation. On a tous redouté le pire en 2012, il ne s'est rien passé quand les AAA sont partis. On a encore du A partout chez tout le monde.
Le problème de la confiance, c'est que tu l'as jusqu'au jour où tu ne l'as plus.
Et quand
tu l'as plus, la regagner, c'est très compliqué. Et en fait, aujourd'hui...
Si la Grèce est parvenue. Alors, je ne vous raconte pas, là, c'est de l'austérité.
Oui, c'est la vraie austérité. Mais aujourd'hui, si on ne nous prête plus, je rappelle qu'on n'est pas à l'excédent primaire, hein, je veux dire, très très loin de là. Donc, même si on dépend de l'extérieur pour payer en fait, une partie du fonctionnement en permanence.
On fera venir Javier Milei.
Ça peut être extrêmement, oui, ça peut être extrêmement douloureux.
J'avais vu André Ventura au Portugal, c'est un peu du Javier Milei à l'Europe.
Il a réussi à réduire. Enfin, il a eu presque un excédent primaire, donc pour ça on va le ramener à la maison.
Mais j'avais regardé, je crois que la France a à peu près 5 semaines de cash pour tenir si elle ne peut pas placer ses obligations. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, vous avez une retraite sur 10 qui est plus payée, des fonctionnaires qui sont plus payés, enfin, c'est juste...
Là, il y aura une réaction.
C'est du shutdown, c'est du shutdown à la France. Oui, là, il y aura une réaction. Bah, de toute façon, on en avait déjà parlé avec Robert Rivaton. Il me dit, le jour où on a un coup dur, on met 2 points de TVA du jour au lendemain et puis c'est réglé.
Ouais. Bah,
ça fera pas plaisir, mais c'est réglé.
Il faudra peut-être un peu plus que 2 points.
Ah ben, l'Union européenne nous autorise à aller jusqu'à 25.
Oui. Oui,
si vous renoncez à des...
C'est pour ça, en fait. Ouais, c'est
si
pour
vous
ça
renoncez à des taux réduits et que vous remettez tout ça aux alentours des 23-24, là, vous dépassez la moyenne de l'Europe. Mais là, c'est bon, là, vous avez rassuré tout le monde. Mm. C'est quand même l'impôt le plus efficace du monde, la TVA.
Ce que dit Alain Minc, il a tout à fait raison.
Qu'est-ce qu'il dit?
Mais d'ailleurs, que c'est l'impôt le plus... Qu'elle a, la base
ah ben, large, ça, c'est clair.
Finalement, celui qui rapporte le plus.
Et vous avez vu,
c'est peut-être qu'il y a moins d'effet de distorsion. Vous vous rappelez que l'avantage de la TVA...
On parle d'impôt.
Mais l'avantage, c'est que tu fais payer tes importations aussi. C'est ça qui est bien.
Tout le monde contribue.
Des gros importateurs, tu fais contribuer tout le monde.
On a réussi à retomber sur nos pieds en parlant d'impôt. On est bien français.
Et à la fin, il y a toujours des impôts.
Mais ce que je trouve intéressant sur ce débat sur la TVA, c'est qu'on en arrive à dire que si on est au pied du mur, on sera obligé d'augmenter de 2 points la TVA. Et c'est vrai, c'est sans doute ce qu'on fera.
C'est le seul moyen pour avoir les milliards à la fin du mois.
Oui, mais justement, mais moi,
tu les as tout de suite.
T'as
tes 11 milliards ou tes 12 milliards ou 15 tout de suite.
Ça, Nicolas, ça s'appelle être en réaction.
Moi, je préfère. S'il n'y
a pas d'effet sur la consommation. Moi, je préférerais qu'on se pose la question de l'augmentation de la TVA maintenant. Pour financer notre modèle social et baisser en contrepartie les charges de nos entreprises. C'est par temps calme, si tant est qu'on puisse appeler le temps actuel par temps calme, mais en tous les cas, on n'est pas aujourd'hui au pied du mur tel qu'on pourrait l'être dans 2 ou 3 ans. C'est maintenant qu'il faut se poser toutes ces questions-là. Parce que si on est en réaction, oui, on augmentera la TVA, mais on le fera mal. Et on le fera sans doper la compétitivité de nos entreprises. Alors que si on réfléchissait à un mécanisme intelligent aujourd'hui, on pourrait certes augmenter la TVA, mais renforcer la compétitivité de nos entreprises et faire peser notre modèle social sur la consommation, ce qui serait une bénédiction pour les dizaines d'années à venir.
Oui, tu vas expliquer aux gens que tu fais de l'inflation.
Ou pas.
Ah ben, si, avec la TVA, si. Il y aura un phénomène d'inflation, forcément. Alors l'avantage, c'est qu'on peut augmenter le salaire net
si on
utilise la TVA sociale, notamment.
C'est le but.
Alors que la CSG, là, on va taper directement sur le pouvoir d'achat de tout le monde. Bon, on va arrêter de parler d'impôts, ça démoralise les gens.
Oui, c'est démoralisant.
Mais je suis assez de votre avis temporaire, exceptionnel.
Incroyable.
Chaque fois qu'on a ce genre d'idée. Vous avez vu qu'il y a des idées de prélèvements obligatoires qui ressurgissent un peu partout, là, hein, à l'Assemblée nationale. Il y a des élus qui ressortent des idées. Tiens, les rachats d'actions. Voilà, il y a plein de petits trucs.
C'est facile, ça. C'est tellement facile.
Oui. Bon, à côté de ça, bon, je veux bien qu'on, enfin, on va pas avoir un débat sur les rachats d'actions. Je sais qu'il y a des circonstances où ça a du sens, le rachat d'actions. Distribution d'actions gratuites, on stérilise une partie du capital, c'est cohérent. Quand on voit les montants qu'on atteint aujourd'hui en rachat d'actions, notamment aux États-Unis, on peut quand même s'interroger sur ce mécanisme de gouvernance. Bon, l'emploi. Ce chiffre vous a fait réagir, notamment Rafik Smati. 440 000 créations d'emplois dans la zone euro au quatrième trimestre 2023, c'est merveilleux, mais il n'y a pas de croissance. Voire, il y a des pays, des gros pays en récession. Ça vient d'où ? Est-ce qu'on peut se réjouir d'avoir des créations d'emplois sans croissance ?
C'est un sujet qui est très intéressant, qui montre à quel point une nouvelle peut être extrêmement biaisée. On vous dit 400 000 emplois créés en Europe, on se dit c'est extraordinaire, c'est 400 000 chômeurs de moins. Et on peut objectivement se réjouir pour les personnes qui ont trouvé un job, qui étaient peut-être pour certaines d'entre elles en situation de précarité. Et donc c'est génial. Mais si on tire le fil, on se dit que, certes, on a créé des emplois, mais on n'a pas produit plus, puisque le PIB, lui, n'augmente pas de manière significative. Donc, on produit autant qu'avant, avec plus de monde. Donc ça porte un nom, c'est la baisse de productivité. Et donc, on est en train... Alors, c'est pas nouveau, la baisse de la productivité baisse dans notre pays et en Europe depuis maintenant quelques années.
Mais 2019, à peu près, oui.
On est en train d'entériner l'idée qu'on rentre dans une période de baisse de productivité. Et la baisse de productivité, vous avez beau retourner le problème dans tous les sens, c'est une mauvaise nouvelle sur le moyen et sur le long terme. Personne ne peut se réjouir qu'une économie devienne moins productive. Donc, parfois, derrière une apparente bonne nouvelle, se cache des nouvelles qui, si on regarde ce qu'il y a derrière, ne sont pas forcément si bonnes que ça. Et la question de la productivité aujourd'hui, et en corollaire la question du taux d'emploi, c'est ce qui devrait mobiliser aujourd'hui la puissance publique. Si on réussit à faire mieux travailler les Français, et donc par extension les Européens, parce que c'est de ça dont il s'agit, si on réussit à atteindre un taux d'emploi important et être productif, eh bien on sera capable de faire de grandes choses et de résoudre quasiment tous les problèmes dont on a parlé aujourd'hui autour de ce plateau-là. Tous. Et de ce point de vue-là, la technologie, l'intelligence artificielle, la robotisation, ça va être des game changers majeurs.
Je ne suis pas sûr, Rafik Smati, que beaucoup de politiques maîtrisent le terme de productivité. C'est-à-dire ce rapport entre le volume de production et les ressources mises en œuvre pour obtenir ce volume de production, le travail en tête. Je ne suis pas certain que cette notion de productivité soit quelque chose qui soit présent dans les esprits.
Quand vous dites que vous
j'entends
n'êtes pas
certain, par exemple rarement Bruno Le Maire en parler. Et pourtant, je lui ferai pas le procès de ne pas savoir de quoi il se passe, de quoi il s'agit.
Mais il va falloir avoir le courage de dire simplement qu'un ministre de l'économie aille sur un 20h et dire nous devons produire mieux et nous devons produire plus. J'ai envie de vous dire de manière un petit peu provocatrice, quoi qu'il en coûte. Voilà quel devrait être le quoi qu'il en coûte. On va produire plus et on va produire mieux. On ne peut pas imaginer rentrer dans un monde...
Il faut finir la phrase, Rafik. Il faut produire plus et consommer moins. Parce qu'un pays qui est en déficit de sa balance des paiements courants est un pays qui consomme plus qu'il ne produit. Mais
on ne peut pas rentrer dans un monde, et là je vais donner la parole à mon ami, où la culture du divertissement est érigée en religion et que l'on perde de vue la valeur cardinale qui consiste à dire que nous devons travailler, que nous devons produire. Parce que si on ne travaille pas et si on ne produit pas, ce sont les autres qui vont le faire pour nous. Les autres. Et on va le racheter et ça va nous coûter cher. Et on va perdre notre souveraineté dans tous les domaines.
Mais vous avez vu le phénomène qui s'est installé depuis Covid totalement nouveau, c'est l'absentéisme qui a pris une part absolument monumentale dans tous les pays. Donc vous dites, si on ne travaille pas seulement, je doutais un petit peu de cette histoire de changement du rapport au travail, je commence à me demander s'il n'y a pas des choses beaucoup plus profondes que ça et qu'on n'a pas encore tout vu. Et que ça fait partie des éléments
mais même le
parmi d'autres.
Même le télétravail devient un acquis social aujourd'hui. Ça va très loin.
En tout cas, c'est un argument pour choisir un emploi. Oui.
Vous avez vu ce qui s'est passé chez SAP ? Ils étaient passés à 5 jours par semaine de télétravail. Le patron a tapé du poing sur la table en disant « Maintenant, il faut revenir minimum 2 jours. » Pétition de 1500 salariés, d'un coup d'un seul, qui menacent de démissionner en bloc si on les oblige à revenir travailler dans les locaux. C'est un truc de deux. Sur cette productivité, Olivier Babeau, vous avez une réflexion, Nathalie Janson ?
On peut faire beaucoup de
procès. C'est multifactoriel,
Oui, bien sûr. On peut faire beaucoup de procès en incohérence à Emmanuel Macron depuis le début de ses quinquennats. Il y a un sujet sur lequel il n'a jamais bougé. Et je pense que le diagnostic est vraiment le bon. Il faut que le travail paye mieux, paye plus, soit plus intéressant.
Gabriel Attal le dit quasiment toutes les semaines.
Et c'est tout à fait vrai. Et alors, augmenter le salaire net par rapport au super brut, c'est tout à fait vrai. Et je pense qu'il faudrait que l'idée de la TVA sociale est par exemple une bonne idée. Faire que peut-être que notre système, qui est encore le plus généreux d'Europe, si ce n'est du monde d'ailleurs, soit peut-être un petit peu plus incitatif quand il le faut pour avoir la bonne protection, mais toujours incité. Et il faut regarder le taux d'emploi.
Pensez à l'assurance chômage.
Et la productivité,
chômage.
C'est les deux choses
Olivier
qui nous
intéressent. Olivier Babeau,
évidemment, évidemment.
Parce que quand on parle de taux d'emploi...
En jouant sur la durée notamment, qui reste extrêmement longue.
Donc c'est aujourd'hui, on est à 18 mois en dessous de 53 ans. Je crois qu'au-dessus de 55, on est tombé à 27. On était à 36. Puis on doit être un peu au milieu entre 53 et 55 ans. Parce que vous parliez de taux d'emploi dans votre triptyque magique. L'efficacité, lutter contre les gâchis, le taux d'emploi. La réforme des retraites est une réforme susceptible d'augmenter le taux d'emploi. L'idée, c'est que la réforme de l'assurance chômage, c'est l'autre réforme. Vous pensez que c'est celle-là qu'il faut engager, réengager ? Il y en a déjà eu deux tout récemment ?
Mais absolument.
Absolument.
Mais évidemment.
Oui, mais ça va contre l'idée de mener des politiques contracycliques qui était l'engagement qui avait été pris par l'exécutif. Donc quoi ? Tomber à 14 mois ? La durée d'indemnisation comme en Allemagne ?
En tout cas, elle a changé en fonction de la situation économique.
C'est l'idée.
Bien sûr, ça va de pair avec un accompagnement qui est peut-être, qui était pour l'instant un peu le parent pauvre des politiques de l'emploi. C'est que l'accompagnement était un peu, peut-être pas trop au niveau. On était très bon pour l'indemnisation, ça c'est super. Mais le côté accompagnement, il peut être beaucoup plus raffiné. Alors, d'autant plus qu'on sait qu'il y avait une partie des gens qui sont très éloignés de l'emploi et ces gens-là, ils demandent vraiment un accompagnement spécifique.
Et ne pas oublier.
Des apprentissages spécifiques.
Et ne pas oublier qu'il y a la situation de Paris Centre et des Ardennes pour schématiser. La situation dans notre pays n'est évidemment pas homogène. Donc je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée de concevoir et de penser à la politique du travail et de l'indemnisation chômage de manière uniforme sur tout le territoire parce que évidemment les
réalités ne
sont pas les mêmes.
Une politique d'assurance chômage à géométrie variable en fonction des territoires.
Oui, et d'ailleurs ça a été, je crois, dans les tuyaux ou plus ou moins étudié. Il y a eu un ballon d'essai dans ce sens-là il y a quelques mois, mais je pense que oui. Quand vous allez dans la France périphérique, ce n'est pas comme si vous êtes en centre-ville.
Il y a un problème de mobilité qui se pose, qui est aigu, pas en région parisienne.
Oui, d'accord.
Parce que moi, j'entends sur vos plateaux quelquefois, ceux qui disent qu'en fait, ça n'a pas d'impact. Enfin, je suis toujours un peu
dubitative. De quoi n'a pas d'impact, pardon ?
La durée de l'assurance chômage et que c'est pas bien parce que si on la réduit, les personnes seraient obligées de prendre un travail pour lequel ils sont les moins qualifiés. Enfin, honnêtement. Enfin bon, je ne suis pas spécialiste, donc je ne vais pas me lancer, voilà. Mais je suis très dubitatif. On est quand même clairement, quand on compare les pays, on voit bien que chez nous, il y a quand même un problème de prise d'emploi. Et effectivement, quand vous parlez en région avec des gens qui recrutent, vous voyez bien que le problème de la mobilité se pose. Clairement, donc quand vous avez une indemnité qui a un nombre de mois plus élevé et que vous voulez pas, enfin que vous avez un problème de mobilité, donc vous trouvez ça trop pénible d'aller ailleurs, bah effectivement, vous attendez. Donc, et si vous attendez, bah, c'est moins bien. Et si c'est moins bien, bah, vous allez retomber dans une situation peut-être moins bonne encore. Donc, moi, je suis un peu partagée sur les études sur le sujet, parce que je me demande comment elles sont faites, et parce que on voit bien qu'il y a un problème en France, en tout cas, de mobilité en région. Il est très aigu, ce problème.
C'est un peu le problème des études, Nathalie Janson, c'est qu'en fait, elle vous donne des observations globales, qui seront forcément
elles sont très
mal perçues par des gens qui vont regarder leur cas individuel par rapport à l'observation globale. De l'un des meilleurs spécialistes qui est Stéphane Carcillo qui vient ici et de dire au bout de 6 mois au chômage l'employabilité s'abîme.
Exactement.
Mais c'est global. Peut-être que quelqu'un qui y passe 8 mois est super employable au bout de 8 mois. L'autre observation qu'il fait, toutes les études montrent, dit-il, que le curseur le plus efficace, c'est la durée d'indemnisation, pas le montant, la durée.
Non, c'est la durée,
Le fait de réduire la durée est un accélérateur des incitations au retour à l'emploi.
Oui, oui.
Non, mais vous allez trouver l'exemple
Éric Heyer, vous défendez l'idée inverse. Oui. Donc c'est pour ça qu'il disait qu'effectivement, c'est un appauvrissement, une paupérisation des salariés. Bon, j'ai quand même pas l'impression qu'en France, on soit dans cette dynamique
Éric
de paupérisation.
Éric Heyer est constant. Il défend l'idée qu'on doit mener, c'est l'histoire de on répare le toit quand il fait beau et on lâche
un peu. Non, mais par contre, ça, il a pas tort. Mais en même temps, il est clair que la durée de l'indemnisation a un impact. C'est clair.
L'histoire de la désmicardisation, l'histoire du travail, il doit vraiment mieux payer que l'inactivité, c'est le dada de Gabriel Attal. Le seul élément concret de choix politique mis en avant pour essayer d'y parvenir pour l'instant, c'est la fameuse réforme de l'assurance chômage. Parce que la complexité, Dieu sait si on l'a évoqué ici, pour se dire, tiens, on sort de la trappe à bas salaire, c'est juste un truc inextricable. Vous vouliez réagir
vis-à-vis. Oui, il y a un contresens qu'on fait souvent sur l'assurance chômage. On entend ça comme c'est un droit, donc j'ai le droit à avoir 18 mois. Mais si vous êtes assuré contre l'incendie, c'est pas pour ça que vous allez mettre le feu régulièrement à votre maison parce que vous êtes assuré. Il faut bien comprendre que c'est quelque chose qui doit être limité aux gens qui ont un risque et c'est une forme de mutualisation du risque et le principe de l'assurance. Mais si tu peux l'éviter, tu dois le faire. C'est peut-être aussi une question d'état d'esprit.
Oui, voilà. On va faire on va avoir un accident de voiture parce qu'on est
bien assuré, on est bien couvert. Ça s'appelle l'aléa morale d'ailleurs, mais c'est...
Excellente émission, excellents invités. Oh, c'est sympa, ça.
C'est gentil.
Oh, merci.
Je ne m'attendais pas à entendre parler d'Ethereum. Voilà.
Oui.
Faites un carton. Bon, eh bien, écoutez, voilà. En attendant, on va taxer les voitures chinoises en Europe. Et puis, il faudra payer 100 euros pour se former. Ça vous choque qu'on ait mis le permis moto dans les formations, là? Parce que visiblement, c'est...
Pour les livreurs, peut-être, j'en sais rien, moi.
Non, le coût du permis moto, c'est...
Pourquoi pas la moto,
c'est la deuxième formation la plus demandée.
C'est parti, la mobilité.
Ouais, mais bon, est-ce qu'on a forcément besoin du permis moto pour ça?
Bah, si on est livreur, à niveau...
Oui, oui, enfin... Je suis pas un pro là. Il y a peut-être encore des trucs qui se conduisent sans permis. Je sais pas.
Oh non, pas grand chose.
Si, il y a les moins de 50, non?
Oui, les moins de 50.
Moi, à mon époque, avec le permis B, tu pouvais conduire une. Oui. Je sais plus combien.
Moins plus d'une 125, je crois.
Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça, voilà.
Tu peux avoir.
Je sais plus où on en est.
Mais tout le monde n'a pas son permis B.
Oui, alors. Non, mais,
surtout dans la France.
Non, mais qu'on aille chercher le permis de conduire, le permis moto, que ce soit à la moitié des formations, ou alors ceux qui veulent apprendre le hongrois.
Comment ça, le hongrois?
Je sais pas,
c'est une langue tout à fait respectable.
Oh là là là,
c'est un pays très intéressant.
Non, voilà, l'idée... Ah, moi j'ai une bonne question, attends, mais je la poserai à 10h30. Est-ce qu'on doit forcément mettre des contraintes et des nouvelles réglementations devant des politiques qui fonctionnent parce qu'elles ont créé des effets d'aubaine? Ça, c'est pas un bon débat, ça. On le voit dans des quantités de domaines, l'histoire de l'apprentissage par exemple. Bon, allez, on en a fini. Nathalie Janson, vous reviendrez à 100 000 $?
Ah bah oui.
Non, avant.
Ah, j'avais
avant.
Une petite citation qui était
alors,
sympa.
Vite.
C'est, oui. Les idiots, on a dit que les idiots sont ceux qui dansent. Aujourd'hui, on va dire que ceux qui sont plus idiot regarde.
D'accord. Merci à vous, Olivier Babot. Et puis Rafik Smati, rendez-vous demain 9h.
Nicolas Dose et les experts sur BFM Business.